应该是打高尔夫了。
Au revoir les enfants. À bientôt.
I love you, but you don't know what you're talking about. I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Et cette semaine, le vent qui balaye une petite ville du Montana vient souffler sur notre toile et la laisse dans une solitude à peine troublée par les yeux de nos deux maris. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Rémi.
Bonjour.
Alors, petit souci technique dans le cinéma oblige, je n'ai pas pu voir le film de cette semaine et me contenterai d'être un distributeur à parole neutre et objectif. Et je commencerai donc par le résumé très sommaire que me permettent de faire mes lectures sur Internet. Ce film, c'est le portrait de quatre femmes à travers trois histoires reliées par un fil presque invisible. Quatre femmes dans l'immensité américaine et dans cette petite ville microscopique. Quatre femmes étouffées par cette société, mais confrontées à une solitude assez vertigineuse malgré tout. Et quatre femmes dont on montre un petit peu la condition universelle dans ce film. Je m'arrête immédiatement et vous demande donc peut-être quelques précisions supplémentaires. Marie et Marie, donc.
Bon, au niveau de l'intrigue, on n'a pas grand-chose à ajouter,
oui,
en
voilà,
effet.
C'est pas un film à intrigue, donc jusque-là, tu ne t'es pas planté, Rémi.
Ouf.
Rassure-toi.
Mais alors, du coup, peut-être, c'est que ces quatre femmes qui sont elles, quand même, rapidement.
Alors, on a Laura, qui est une avocate. On a ensuite deuxième personnage.
Deuxième personnage, oui. Les prénoms sont à peine esquissés
c'est
aussi.
C'est quelque chose qui m'agace un peu dans les films, quand on ne dit pas clairement le nom des personnages et qu'à la fin, du coup, on ne sait pas. Donc du coup, ce sera la blonde qui se construit une maison avec son mari. Voilà.
Voilà. Ensuite, on a donc Kristen Stewart, on connaît son nom.
Voilà, mais elle s'appelle Elizabeth.
Elizabeth, oui.
Dans le film, donc... et qui est une jeune avocate qui s'est retrouvée pour rembourser un crédit, obligée d'accepter de donner des cours de droit scolaire à 4 heures de route de chez elle, deux fois par semaine. Et donc, il se retrouve dans une situation absolument détestable, comme ça, un peu comme on imagine parfois l'Amérique avec sa politique sociale. Et cette jeune palefrenière dont, pareil, j'ai oublié le nom.
Mais je ne peux pas t'aider.
Ou peut-être nom que je n'ai pas su, qui se retrouve à tomber amoureuse d'Elizabeth et à développer une espèce de passion muette, comme ça, pour elle, puisque c'est un film qui est très, très muet.
Très muet, oui.
T'es assez d'accord là-dessus.
Oui, très peu de dialogue, très peu de musique. Puis on a quand même cette campagne, cette montagne, cet environnement qui est vraiment omniprésent, qui fait presque un personnage à part entière finalement.
Oui, c'est ça. On est en permanence cerné par les montagnes. L'horizon est un peu bloqué par ces montagnes et c'est un horizon, un paysage très plat de grandes plaines du Montana et montagnes en arrière-fond.
Et des montagnes sur lesquelles la caméra s'attache apparemment. Vous aviez l'air de me dire avant l'émission que la photographie tient une place assez importante dans tout le travail de réalisation du film.
Ouais, j'ai aucune connaissance technique, donc je ne saurais pas qualifier ça, mais il y a un grain très particulier à la pellicule qui rend les images absolument magnifiques. Enfin, le plan de départ, qui est un plan fixe avec donc la plaine, la montagne et un train qui passe, est absolument magnifique. Et le grain est tel qu'on aurait presque dit que c'était dessiné.
Oui, c'est presque un peu sépia ou une tonalité un peu particulière, mais qui est vraiment magnifique. Quoi.
Voilà.
Ça, c'est quelque chose.
Les
plans
sont très jolis aussi, très clairs. On devine que c'est un peu l'hiver froid et blanc.
Puis on alterne entre ces grands espaces et les paysages, et les deux se mêlent souvent. S'il y a des plans vraiment magnifiques où on a par exemple un reflet, un visage derrière un reflet de la montagne, on a souvent ces alternances et les deux qui se superposent. Ça rend vraiment, c'est pour ça, une qualité photographique assez remarquable.
Et du coup, cette photographie, qu'est-ce qu'elle dit de l'histoire? Qu'est-ce qu'elle dit des personnages? Et finalement, quel est le propos du film? Est-ce qu'il y a seulement un propos dans ce film?
Alors, j'aurais tendance à penser quand même que oui. Le propos du film, c'est pas de faire une grande réflexion sur les femmes dans la société, la misogynie, ce genre de choses. C'est l'idée de faire quatre portraits de femmes en trois histoires, où plutôt que de réfléchir, on va montrer des femmes qui ont leur volonté, leur capacité de travail, leur capacité de contemplation aussi. Et du coup, quatre personnages que j'ai trouvé très intéressants. Je sais pas ce que t'en as pensé, Marie.
J'ai trouvé ça assez bluffant, le fait qu'on ait si peu de mots, si peu même de... Oui, je sais pas, de contexte même personnel ou familial. Enfin, on sait pas forcément d'où elles viennent, à part leur métier, etc. Mais on arrive quand même à saisir vraiment une complexité, une profondeur des personnages en très très peu. Donc ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'assez remarquable et même d'assez commun à beaucoup d'aspects du film. C'est-à-dire tout est assez esquissé.
Oui.
Parfois même un petit peu trop pour moi. Enfin, parfois j'étais un petit peu... j'avais du mal, c'était trop. Alors bon, peut-être que j'ai pas su saisir, mais il y avait des plans, des scènes où je sentais qu'il fallait comprendre quelque chose, mais j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Par exemple, cette histoire, voilà, de pierre à récupérer. Il y a la personnage donc qui veut construire une maison avec des pierres qu'elle achète,
ouais, de grès utilisées par les premiers pionniers.
Voilà, les pionniers. Et il y a beaucoup de plans où elle regarde ses pierres. Alors elle regarde vers le passé. On se demande un petit peu, mais pour moi c'était là trop esquissé. Enfin, j'étais un petit peu ça me manquait un petit peu.
Moi, c'est pas un aspect qui m'a gêné. Un autre aspect que j'ai bien aimé dans ce film, c'est toute la manière dont il présente le temps qui passe et surtout qui se répète.
Ouais.
Il y a énormément de scènes qui se répètent pour signifier la monotonie, le quotidien, le retour aussi des tâches liées à la terre. Enfin, je pense aux scènes où on voit cette palefrenière, donc il y a ce travail d'hiver dans un ranch, et on la voit plusieurs fois faire la même chose, sortir le cheval. En plus, c'est des scènes qui ont une petite touche comique, parce qu'elle est accompagnée d'un chien, je crois que c'est un corgi, avec des toutes petites pattes,
qui la suit
et
partout,
qui court derrière elle dans la neige de manière ridicule. Et
il
y a quelque chose d'un peu attendrissant dans ces scènes de temps qui passe. Ça m'a un peu rappelé, en fait... Daniel Blake, dans cette espèce de lumière un peu claire et cette manière de signifier le temps qui passe comme ça dans un film, et la lenteur, la monotonie, l'ennui.
Ouais. Qui en disait vraiment finalement beaucoup plus qu'un discours très fin, presque ostentatoire. Enfin, là, c'était vraiment pas le cas. Et il y avait des jeux de regard, quelques mots à peine. Il y a très très peu de dialogue entre les personnages, mais qui en disent beaucoup, surtout. Par exemple, je pense au couple. On sent justement dans leurs regards qu'ils se croisent à peine, dans les mots qu'ils ne se disent pas. Mais ça, c'est très, très délicat. Vraiment, on sent qu'il n'y a plus de complicité, qu'ils ne se dialoguent plus. Mais sans qu'il y ait aucune violence, aucun accroc, a priori.
C'est pas un couple qui s'envoie des assiettes à la figure,
non.
Quoi. Mais ça dit bien le délitement d'un couple.
C'est presque même plus dramatique qu'une scène d'engueulade hyper violente.
Exactement.
Oui,
pareil pour cet amour muet de la palefrenière pour le personnage de la jeune avocate Elisabeth. Je veux dire, elle a un acte comme ça, il réfléchit, c'est que le jour où elle ne la voit plus, elle prend sa voiture et elle roule pendant 4 heures. Elle va dans la ville où elle habite pour essayer de la retrouver comme ça, complètement à l'aveugle. C'est un acte complètement passionné et fou comme ça, mais qui est présenté avec beaucoup de délicatesse. C'est presque comme si c'était normal de tout plaquer et de prendre son camion et de rouler pendant 4 heures comme ça pour aller chercher une personne qu'on aime. Donc c'est un film comme ça qui est très joli pour ça. Et dernier aspect peut-être que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que tu parlais un peu de ce fil ténu entre les histoires en introduction, Rémi. C'est le fait que justement, y a pas de collusion entre ces histoires, à part des tout petits fils comme ça. Je pense que justement, ça m'aurait gêné que dernière demi-heure, elles se rencontrent.
Ouais.
Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout l'objectif du film.
Il y a rien d'artificiel comme ça qui est construit, qui serait trop construit.
Genre plot twist à la fin. Pas du tout, quoi. L'avocate au début, Laura, qui est la maîtresse du mari cette femme qui se construit une maison avec lui, à aucun moment elle se rencontre, à aucun moment elle s'engueule, enfin, c'est pas du tout le propos du film, quoi.
Donc un film qui dit peut-être plus de choses en creux qu'il n'essaye d'en dire, un film qui ne parle pas, du coup, et qui nous met devant, alors, les images, peut-être les faits, mais certainement pas plus. C'est un film que vous avez aimé, manifestement, malgré quelques réserves.
Oui, bah, moi, j'avoue que j'ai besoin du recul. Là, j'ai l'impression de l'aimer de plus en plus après, en fait.
Ouais. Bon, après avoir dormi, par exemple.
Voilà, aussi, parce que c'est ce qu'on disait. J'étais un peu fatiguée au moment où je l'ai vu, et je pense qu'il vaut mieux le voir quand même. En forme globalement, parce que voilà, cette lenteur, ce silence, etc. Mais et puis moi, je pense qu'il m'a manqué quand même parfois des petites choses quand même, et j'aurais aimé voir des, enfin voilà, quand j'ai lu les critiques, il y a des choses, j'ai dit oui, mais ça, j'aurais aimé le voir, ça m'aurait beaucoup plu, mais je sais pas. Alors, est-ce que c'était mon état à ce moment-là?
Ouais, mais peut-être que les critiques ont extrapolé par rapport à ce qu'on a vu à l'écran. Bon, en tout cas, je suis contente de ce film, et c'est un film que je recommande vraiment.
Et puis après tout, un film qu'on aime d'autant plus qu'on y repense, oui. C'est peut-être la définition d'un bon film, finalement. En tout cas, c'est un film qui passe encore au cinéma opéra, mais qui n'y passera certainement pas très longtemps, car il a déjà eu du mal à sortir en salle. C'est vraiment une toute petite sortie, et c'est donc Certaines Femmes, on a peut-être même oublié de le mentionner, Certaines Femmes de Kelly Richards. Vous trouverez toutes les références sur la page de l'émission.
Ted, suit up!
Lana. Lana. Lana.
Lana!
What? Danger zone.
Say my name.
Eisenberg.
You're goddamn right.
Cool. Cool, cool, cool.
Boy, these pretzels are making me thirsty.
While my days are not taking you seriously, they're certainly coming to a middle.
Plata or plomo.
Democracy is so overrated.
Office.
Winter is coming.
Alors aujourd'hui, Rémi, je vais vous parler de quelque chose d'un peu particulier, mais avant ça, je vais te poser une question. Quelle est la plus longue frontière terrestre que la France a? Avec quel pays?
Excellente question, nos collègues agrégatifs sauraient sans doute bien mieux te répondre.
Eh bien, c'est avec le Brésil.
Ah oui, on n'y pense pas tout de suite, à la Guyane.
Exactement, voilà, c'est la Guyane, et donc je vais vous parler d'une série française qui parle de la Guyane, un territoire fort peu connu par nous, chers blancs métropolitains, mais pourtant un territoire extrêmement intéressant, plein de cultures différentes, diverses et variées, etc., avec une diversité assez intéressante que l'on retrouve dans la série que je vais vous parler, qui s'intitule fort à propos Guyane. Alors, c'est une série que j'affectionne tout particulièrement, bien sûr. Petit détail, sa sortie DVD a été programmée pour le 14 février 2017, c'est-à-dire mon anniversaire. J'étais fort content en apprenant ça aujourd'hui, après avoir vu la série intégralement. Enfin bref, voilà, c'est une série qui représente fort bien la diversité et le réalisme de la Guyane, parce que c'est une série produite par Canal+. En effet, c'est une série de Canal+, donc on peut s'attendre à énormément d'effets, pas forcément des effets spéciaux, mais beaucoup de moyens, des acteurs de bon niveau, et surtout, ça a été tourné sur place, en Guyane même, ce qui est assez intéressant, parce que de nombreuses séries sont filmées soit dans des studios, soit dans des lieux qui ressemblent à l'endroit, sans vraiment l'être, pour des questions, bien sûr, de thunes. Alors, c'est une série qui est composée de 8 épisodes, avec un début, un milieu et une fin. La fin, comme vous le savez, c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, et c'est une bonne fin pour cette série. Bien sûr, c'est une fin attendue, mais quand même jouissive après les 8 épisodes d'une heure chacun, soit environ un peu moins de 8 heures de véritable aventure, etc. Elle a été diffusée en France sur Canal+, donc du 23 janvier au 23 février sur l'espace de 4 semaines. Elle a été créée par Fabien Nury et réalisée par 3 personnes, pour les 4 premiers épisodes par Kim Chapian, pour les 3 suivants par Philippe Tribois, et enfin pour le 8e et dernier par le créateur même de la série, Fabien Nury. On pourrait se dire que c'est un peu particulier d'avoir pour une série si courte autant de réalisateurs, sauf qu'en fait il y a une véritable continuité du style avec des points de vue fort intéressants qui suivent justement cette évolution à la fois des personnages mais aussi du style que prend la série, c'est-à-dire ça commence un peu joli, un peu gentil avec la découverte de cette forêt et tout d'un coup on se retrouve dans ce coin sombre et terrible qui est en fait le monde des orpailleurs illégaux et du trafic de l'or en Guyane, un territoire pas très bien surveillé par les autorités françaises. Ensuite, bien sûr, les épisodes deviennent de plus en plus sombres, avec de plus en plus d'emmerdes dans tous les sens, jusqu'au dernier épisode, où là, c'est assez particulier en fait, parce que c'est un des épisodes où il y a le moins d'action dans tous les sens, de suspense et tout. C'est un épisode relativement calme, mais qui pourtant joue sur les nerfs et amène une résolution à laquelle on s'attend, mais qui nous laisse en suspense jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières minutes. Donc, c'est une série qui est très intéressante, que j'ai particulièrement aimée, qui a reçu de très bonnes critiques, de la part notamment du Monde et de l'Express, qui lui accordent 4 étoiles sur 5, et bien sûr d'autres journaux qui lui accordent plutôt 3,5, etc. Donc c'est plutôt bien reçu, même si il y avait énormément de suspicions aux premiers épisodes pour savoir si ça allait être une bonne série d'aventure ou si ça allait tomber dans les méandres de toutes les séries qu'on connaît qui parlent déjà de la drogue, du trafic de drogue, comme par exemple Breaking Bad, ou des simples séries d'aventure qui n'existent pas vraiment en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé fort intéressant justement dans Guyane, c'est que ça mélange les genres en racontant une histoire assez simple. Donc voilà, j'en viens à l'histoire. C'est l'histoire de Vincent Augier, un étudiant de l'École des Mines de Paris, qui est menacé de se faire virer de l'école pour on ne sait quelle raison, mais sûrement quelque chose d'assez horrible, mais on ne sait rien. Et du coup, on lui propose très gentiment de faire un stage à l'autre bout du monde, en Guyane. Il y découvre donc le monde des orpailleurs, ceux qui exploitent l'or dans ce monde de jungle, dans cet or vert, au milieu de cet or vert, et il se rend compte qu'en fait il y a moyen de se faire beaucoup de thunes, mais il faut jouer avec les mafias locales, des petits mafieux qui sont vieux, mais qui pourtant s'accrochent encore à un idéal, l'idéal de Sarah Bernard, la plus grande mine d'or de toute la Guyane. Et s'ensuit donc la descente de Vincent Augier dans la violence, dans le trafic, et aussi, mine de rien, dans l'amour, parce que oui, il faut que ce soit un minimum joli. Alors, l'histoire est très bien menée, elle brasse vraiment tous les genres, on passe de l'aventure, c'est-à-dire la marche dans les forêts vierges, à la découverte de la nature et de l'or aussi, mais aussi le trafic avec énormément de violence, des gens qui s'entretuent, etc., parce que c'est un monde qui est sans vraie police, à part quelques gendarmes français qui sont là pour regarder ce qui se passe. Il n'y a vraiment que l'armée qui peut faire régner la loi, sauf que cette armée, eh bien, réagit aux ordres d'un juge qui est un peu pote avec les orpailleurs légaux, donc Cayenor, la grande entreprise d'or qui est un peu les méchants de l'histoire, enfin, en partie. Bref, je m'égare parce que j'ai beaucoup aimé cette série, il y a énormément de détails, de choses que j'aimerais vous dire, mais surtout à retenir, c'est que c'est une série qui est très violente, ça je tiens à prévenir, Anne Sensible s'abstenir des fois, bien sûr, il y a d'autres moments où c'est très intéressant, mais par exemple une femme se fait violer avec une bouteille de bière vide, et c'est pas très amusant ouais. À regarder, voilà. D'autres personnes se font bouffer par des cochons parce que vous voyez le cadavre laissé en pleine forêt, bah faut bien le faire disparaître d'une manière ou d'une autre. Le personnage principal à un moment se fait verser du pétrole dessus et on menace de le brûler vif. Bref, les effets sont très réalistes et convaincants. On remarque vraiment que c'est une série Canal+, avec les moyens qui sont mis au service d'une très bonne histoire.
Une vraie bouteille de bière, mesdames et messieurs.
Exactement. Les acteurs sont tous saisissants, vraiment. C'est des acteurs qui jouent très bien leur rôle, assez inconnus, en fait, qui ont eu que des petits rôles dans des petits films. Tous sont très saisissants, très intéressants, sauf peut-être l'acteur du juge, qui a l'air totalement paumé, mais d'un autre côté, il représente un métropolitain qui se retrouve en Guyane pour la première fois pour faire régner la loi française. Donc, en fait, ça colle plutôt bien au fait que le personnage même est paumé. On est toujours dans du cliché borderline, mais on tombe jamais vraiment dans le cliché, parce qu'on a la Guyane et la nature qui sont, mine de rien, très bien représentées avec toute cette diversité ethnique et culturelle, avec par exemple, ne serait-ce que toute une partie d'une dizaine de minutes sur un concours de chants d'oiseaux. C'est le chant de Picolette, apparemment des oiseaux de Guyane qui ont un très beau chant, mais qui chantent pas pour tout le monde à tout moment, et donc on passe vraiment 10 minutes pour suivre le concours de chant de Picolette d'un des personnages principaux, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, parce que ça parle autant de culture que d'orpailleurs, etc. On se retrouve avec des plans serrés dans la forêt pour montrer justement cet étouffement, mais aussi des plans larges pour montrer la beauté de la nature, des zooms sur des insectes même, etc. Il suffit de regarder le générique de cette série pour se rendre compte que la nature est un personnage à part entière, a son propre rôle dans cette histoire. Donc il y a énormément de détails très intéressants, avec la présence officielle, par exemple française, qui apparaît très bizarre, avec les gendarmes qui sont, on va dire, potes avec les mafieux. Ils savent ce qu'il se passe, mais ils ne peuvent pas faire respecter la loi française. Donc on se retrouve vraiment au cœur de ces gens qui sont en dehors de la loi, qui vivent cachés dans la forêt de manière très violente. Mais à la fois, on suit aussi la famille de ces mafieux, donc avec tous ces liens familiaux, ces liens amicaux, qui, pour une fois, contrairement à par exemple Breaking Bad, qui apporte un peu trop de lourdeur à travers cette histoire familiale, eh bien dans Guyane, ça marche très bien, parce que tout le monde est à peu près au courant de ce que fait l'autre, mais pas vraiment sans l'admettre, sans vraiment se l'admettre à soi. Et donc, il y a une véritable évolution tout au long des 8 épisodes pour tous les personnages. Et c'est ça qui fait de cette série quelque chose que j'ai vraiment adoré, avec ces grands espaces colorés, verts, etc., verdoyants, d'une nature que l'on connaît pas du tout. Je lui accorde donc 19 camps d'orpailleurs illégaux sur une vingtaine de dom-toms mal intégrés, avec la mention « Hey, dis chérie, ça te dirait d'aller en Guyane ? Non, t'es sûr ? Oh, allez, regarde-moi cette série. »
Eh bien, si ça arrive à nous convaincre d'aller vivre en Guyane, c'est que vraiment, ça ne doit pas être mauvais. Merci beaucoup, Pierre, pour cette série qui finira tous par nous envoyer au bagne de Kourou. Et nous continuons maintenant avec quelques petites suggestions de sorties au cinéma pour cette semaine. Je commence par les sorties de la semaine avec L'autre côté de l'espoir, dernier et peut-être ultime, on verra, film du finlandais Aki Kaurismäki, ours d'argent pour sa réalisation au dernier festival de Berlin. Film qui se passe à Helsinki et qui fait se croiser deux destins qui n'étaient certainement pas voués à se rencontrer. Un cinquantenaire qui décide de changer de vie en quittant sa femme alcoolique et son travail de commercial pour ouvrir un restaurant, et puis Khaled, un jeune réfugié syrien échoué par accident dans la capitale finlandaise. C'est un film qui pose des questions extrêmement intéressantes sur la fraternité, l'humanité et puis toutes les questions liées aux migrations, mais qui reste malgré tout une comédie extrêmement bon enfant et qui a ce côté très rock'n'roll des films de Kaurismäki. C'est des dires de beaucoup de gens une assez grande réussite. Nous en parlerons très prochainement dans cette émission et je vous conseille donc d'aller le voir par exemple chez nos amis des cinémas Lumière. Je continue avec un film italien, Fiore de Claudio Giovanesi, qui suit Daphné, une adolescente de 17 ans, frêle, jolie et paumée, qui survit dans le métro de Rome en braquant les usagers pour leur voler leur téléphone. Et puis arrêtée, condamnée, elle atterrit dans une prison mixte pour mineurs. Et ce film raconte une histoire d'amour mélancolique, mais assez magnifique, paraît-il, qui se déroule donc dans cette prison. Le film passe au Comédia à compter d'aujourd'hui et je vous encourage de même à aller le voir. Du côté des événements lyonnais, je reviens sur cette carte blanche au Festival des Trois Continents organisé par les Cinémas Lumière cette semaine. C'est du 24 au 26 mars au cinéma Thérault et Bellecour. Le Festival des Trois Continents, festival nantais qui propose chaque année une programmation autour des cinémas africains, sud-américains et asiatiques et qui revenait cette année sur la question du Portugal et de la façon dont la colonisation portugaise s'inscrit dans le cinéma, avec donc une carte blanche de 10 films qui seront projetés dans des séances présentées dans les cinémas Lumière. Dizaines de films parmi lesquels un certain nombre ne sont pas sortis en salle, vous pourrez voir un certain nombre de moyens-métrages documentaires, certainement très intéressants sur cette question assez pointue, mais pas complètement inintéressante. Je mentionne également les 33e reflets du cinéma ibérique et latino-américain dont il a été question dans le journal de la culture du dernier journal radiophonique Amplifié. Je vous laisse cliquer sur le petit lien sur la page de l'émission pour plus d'informations. Et puis, dans la série, de ce dont on a déjà parlé, Lumière, l'aventure commence, le film compilant les premiers films de l'histoire du cinéma par les Frères Lumière, film composé et commenté par Thierry Frémaux, est toujours en salle, et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il faut quand même faire un petit détour vers ce monument de l'histoire du cinéma que sont ses premiers films, qui n'a jamais vu l'arroseur arrosé ne peut pas continuer comme ça. Je termine avec l'Institut Lumière, justement, et les soirées consacrées aux films muets qui vont avoir lieu cette semaine, et là, il faut absolument y aller, parce que il y a du lourd et vraiment du gros chef-d'œuvre en perspective, avec évidemment Nosferatu, le vampire de Friedrich Wilhelm Murnau, film en copie restaurée, accompagné au piano dans la grande salle de l'Institut Lumière. L'un des chefs-d'œuvre absolus de l'expressionnisme allemand, à voir de toute urgence pour ceux qui se feraient l'affront de ne pas l'avoir vu. Déplacez-vous, c'est ce soir à 20h45 dans le cadre donc de cette deuxième édition des soirées du cinéma muet à l'Institut Lumière. Également, vendredi à 16h, vous pourrez voir Chantage d'Alfred Hitchcock, l'un de ses derniers films muets, accompagné au piano également, toujours à l'Institut Lumière. Et puis, pour finir, encore avec l'Institut, ce week-end sont projetés samedi et dimanche deux séances de Easy Rider de Dennis Hopper, film monumental, l'un des actes créateurs du road movie. C'est également quelque chose d'extrêmement jubilatoire avec Peter Fonda, Dennis Hopper lui-même et puis Jack Nicholson dans un rôle où il est presque moins fou que d'habitude. Si vous aimez la campagne américaine, on en parlait tout à l'heure, et les gens qui fument des trucs bizarres en faisant de la moto, n'hésitez pas à aller voir Easy Rider, c'est un vrai monument. Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est terminé pour ce 52e numéro. Aujourd'hui, pour le cinéma, c'était Rémi Cerda, Marie Blanc, Marie Lécuyer. Pour les séries, Pierre Lemuel. En attendant une diffusion en direct et en public pour les intercus, nous vous retrouvons d'abord mercredi prochain, toujours sur transistor.fr, pour le prochain numéro de votre émission de cinéma sur Transistor. D'ici là, bonne semaine à tous dans les salles obscures.